Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Cinq morts et plusieurs personnes portées disparues. Bilan provisoire d'une attaque la nuit d'hier lundi à ce mardi du groupe d'autodéfense Zaïre dans la localité Tiz, territoire de Djougou en Ituri. De nombreux habitants fuient leur village. Cependant, les FARDC sont déjà déployés pour récupérer les otages et sécuriser la région. Campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la province du Kwango. Le lancement officiel a eu lieu hier lundi à Kenge. À l'occasion, le médecin coordonnateur provincial du programme élargi des vaccinations de cette province, Dr Léon Makambu Salabiakou, appelle la population à se faire vacciner pour se protéger contre cette maladie. Enfin, nous sommes le 17 mai, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle, une journée décrétée depuis 2005 par la Ligue mondiale contre l'hypertension. Elle a pour but de donner l'information sur la prévention, la détection et le traitement. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Dr Ananias Joamungu, médecine interne à l'hôpital Île Africa de Goma. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, cinq morts et plusieurs personnes portées disparues. Bilan provisoire d'une attaque la nuit d'hier lundi à ce mardi du groupe d'autodéfense Zaïre dans la localité Tiz, territoire de Djougou. Selon des sources coutumières, ces hommes armés ont incendié plusieurs maisons d'habitation avec comme conséquence de nombreux habitants qui ont fui et qui se retrouvent sans abri. Pour l'armée, les FARDC sont déjà déployés pour récupérer les otages et sécuriser la région. Marcel Kizabiamungu.
Un groupe de dizaines d'hommes armés à provenance de Mazé dans le territoire du Djougou s'est introduit lundi vers 19h dans la localité 13 proche du centre de Souli au groupe Magokpa en secteur de Djati. Certains habitants qui étaient encore au marché nocturne dans cette entité ont été surpris par des tirs nourris de ces hommes armés. Des sources coutumières rapportent que 5 personnes parmi les civils ont été atteintes par balles et sont mortes sur place. Ces malfrats ont pris en otage plusieurs personnes et incendié une dizaine de avant de se retirer, ajoutent les mêmes sources. De nombreux habitants qui avaient fui cette attaque et d'autres dont les habitations ont été incendiées sont sans abri et passent la nuit à la belle étoile. Ce mardi matin, certains commencent à regagner les milliers à cause de la présence de FARDC. Les porte-parole de l'armée à Ituri rassurent que toutes les dispositions sont prises pour retrouver les personnes enlevées et sécuriser la population. Par ailleurs, ils lancent un appel aux jeunes membres de ces groupes d'autodéfense à adhérer au processus de paix. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis vous le savez, ce 17 mai, c'est la journée nationale de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. À cette occasion, le secrétaire général du parti politique RCD-KML appelle les autorités du pays de mettre à profit cette journée en vue de réfléchir sur l'amélioration des conditions de vie des militaires pour l'efficacité des forces armées de la RDC. Les députés Grégoire Kiro-Tiongo affirment qu'il faut également rendre hommage aux militaires engagés au front depuis plusieurs années pour restaurer la paix dans l'est du pays. On l'écoute au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Cette journée consacrée au FARDC est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous les militaires qui se battent avec beaucoup de courage et d'abnégation, dans des conditions particulièrement difficiles, jusqu'au sacrifice suprême pour essayer de restaurer la paix à l'est de la République, notamment dans la région de Beni où ils mènent des opérations contre les ZDF depuis près de 10 ans, cela souvent sans moyens conséquents. Ainsi, la commémoration de cette date devrait être l'occasion pour les dirigeants du pays de réfléchir sur comment améliorer les conditions sociales et professionnelles des militaires et comment rendre les FARDC plus efficaces en faisant une réforme profonde de l'armée et en mettant fin au détournement des moyens déjà limités qui sont mis à disposition des militaires.
On reste au Nord Kivu. 3 détenus sont morts à l'espace de 3 jours à la prison centrale de Kangwangura de Butembo. Le dernier cas en date a été enregistré lundi dernier. L'insuffisance alimentaire est la principale cause de ce décès, rapportent des sources internes de la prison. L'Organisation de défense des droits de l'homme, Réseau pour les droits de l'homme, REDO, s'est dit préoccupée par cette situation. Elle dénonce en même temps la surpopulation carcérale ainsi que le manque de prise en charge médicale des détenus. Cette organisation appelle à la responsabilité des autorités compétentes. Grâce à Mouzati.
Les deux premiers décès ont été enregistrés samedi.
Les deux victimes, tous des hommes, souffraient de la malnutrition aiguë. Ces derniers venaient de passer plus de 4 mois en prison. La dernière victime, décédée lundi, était poursuivie pour un fait bénin. Il aurait été arrêté pour avoir coupé un arbre appartenant à un membre de sa famille, rapporte des sources proches. Le coordonnateur du réseau indique qu'en plus de ces cas de décès, il existe plus de 100 autres cas de malnutrition au sein de cette maison carcérale. Maître Mouindo Asivignoua appelle à la responsabilité du pouvoir politique et judiciaire.
Ce n'est pas seulement ces 3 personnes qui sont décédées. Depuis le 1er janvier 2022 jusqu'aujourd'hui, à Kakwangura, il y a 6 décès. Surtout à cause de la famine. Dans la budgétisation de cette prison, on sait que c'est une prison qui a une capacité de 300 personnes. Au niveau du gouvernement central, on budgétise la restauration de 300 personnes, alors qu'ils sont à 804.
À propos de la surpopulation carcérale, Valérie Moalilumande, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Butembo, indique que des mesures sont prises pour réduire le nombre de détenus préventifs. Quant au manque de nourriture et soins médicaux, le maire intérimaire de la ville et le commissaire supérieur principal Mouabaï Kiteli Roger dit envisager des plaidoyers pour résoudre tant soit peu ces problèmes. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Autre nouvelle au Kassai Oriental, lancement ce mardi en Mbujimayi par le ministre provincial de l'Intérieur de la 5e phase de police de proximité dans la commune de Dioulou. À cette fin, un atelier a été ouvert pour présenter aux autorités locales, à la police nationale congolaise ainsi qu'à la population représentée par la société civile, les activités prévues dans le cadre de la phase 5 du projet. D'après le chef de bureau de l'Organisation internationale des migrations, 200 policiers seront formés et 5 bâtiments construits avec le financement du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Des explications avec Esther Ndala.
La police de proximité n'est pas une nouvelle unité au sein de la police nationale congolaise. C'est plutôt un mode de fonctionnement de la police qui prend en compte les besoins de sécurité exprimés par la population et favorise les actions de prévention et la recherche des solutions globales aux problèmes de sécurité. Dans le cadre du lancement de la 5e phase qui sera implémentée dans la commune de Dioulou en Mbujimayi, Maître Pierrot, assistant en gouvernance sécuritaire à l'OIM, a détaillé 3 volets de ce projet. Le premier consiste en la formation de 200 policiers à l'école de police de Chipuka pendant une durée de 6 mois. Au deuxième volet du projet, l'OIM va construire 5 bâtiments dont les commissariats de référence de la commune de Dioulou sur un terrain acquis par le gouvernement provincial dans l'enceinte de l'école Musée Laurent Désiré Kabila au quartier Lumumba. Les sous-siates seront construits respectivement dans la cellule de la Mouya au quartier Abbé Ilunga, Kachama 2, dans la cellule Moussengaï au quartier Tabalaï et le dernier au quartier Simon Kimbangu. Le dernier volet sera consacré à la mobilisation communautaire. À cet effet, quelques activités de sensibilisation de la population seront organisées pour rapprocher la population de la police. Le ministre provincial de l'Intérieur a mené un plaidoyer pour que ce projet soit aussi implémenté dans la commune de Lakanché. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Et puis, début ce mardi à Lubumbashi du Forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, initiateur de cette rencontre, a posé les jalons pour qu'à l'issue de ce forum, la réconciliation soit effective parmi les fils et filles de l'espace Grand Katanga. Témoin de l'événement, Jean Gandou.
D'entrée des jeux, l'archevêque métropolitain a demandé aux participants de se surpasser malgré tout ce qu'ils ont à se reprocher les uns des autres. Monseigneur Félix Mouteba a tenu à rappeler que ce forum n'a pas de visée politique. Il est un cadre de réflexion des fils et filles du Grand Katanga qui doivent passer en revue tout ce qui les divise et crée des frustrations au point de freiner le développement de cet espace qui regorge de beaucoup de minéraux mais dont les populations croupissent dans la misère. Il a demandé aux uns aux autres de se regarder en face, de se parler, de discuter en vue de se pardonner pour une réconciliation sincère. Pour sa part, l'ancien Premier ministre Vincent De Paul Lunda Bululu a aussi appelé l'assistance à privilégier la concorde pour le développement du Grand Katanga. Notons que pour cette journée inaugurale, on a noté la présence de plusieurs personnalités, dont les proches de Joseph Kabila, à l'instar de Jeannette Kabila, Francine Muyumba, Mova Sakani, Séraphin Gouej, Moïse Katumbi et ses proches sont aussi présents. Il y a également quelques membres du gouvernement et des notabilités de toutes les provinces issues de l'ancien Katanga. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, lancement officiel lundi 16 mai à Kengé de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans la province du Kwangu. C'est le gouverneur de cette province, Jean-Marie Petit-Petit, qui a donné le go de cette campagne en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la province, des cadres du système de santé et de certains partenaires, notamment l'UNICEF. À l'occasion, Dr Léon Makambu Salabiakou, médecin coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination de cette province, sensibilise la population à se faire vacciner dans le but de se protéger contre cette maladie. Le point avec Irène Bouma.
Selon le médecin coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination PEV du Congo, cette campagne de vaccination contre la COVID-19 lancée le 16 mai dans la province du Congo a une durée de 7 jours. Au total, 277 sites sont organisés à travers les 14 zones de santé que compte cette province. Et la population attendue pour être vaccinée au cours de cette première phase de campagne est de 257 661 qui représentent les 20% des personnes âgées de 18 ans et plus concernés par cette vaccination. Dr. Léon Makambu Salabia Kukiledi appelle la population concernée à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres contre le coronavirus.
C'est une meilleure occasion pour que nous puissions être vaccinés tout en respectant aussi les mesures barrières. La vaccination, c'est vraiment le meilleur moyen, c'est un moyen efficace pour se protéger contre la maladie coronavirus. Et que tous ceux qui ont des comorbidités, c'est vraiment une opportunité pour eux. Nous demandons à tout le monde d'adhérer afin que nous puissions vacciner le maximum de la population de 18 ans et plus.
Notez que trois types de vaccins anti-COVID-19 sont utilisés pour cette campagne, à savoir les Pfizer, les Sinovac et les Johnson & Johnson. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans la province du Maniema, la campagne de consultation spécialisée gratuite des femmes souffrant de problèmes d'infertilité primaire et secondaire se poursuit normalement. Cette campagne organisée par le centre hospitalier Lumbulumbu vise également les femmes ayant d'autres pathologies gynécologiques. Au 14e jour de cette activité, hier lundi, une centaine de personnes sont déjà consultées. Florence Kizalunga pour les détails.
Lancé depuis le 2 mai, à ce jour, plus de 100 personnes ont bénéficié de ces consultations et disent être satisfaites de connaître leur état de santé.
Je souffrais tellement sans connaître la cause. Aujourd'hui, je suis consultée. Je suis fière de connaître mon état.
Ma chère, mon épouse souffrait beaucoup plus. Elle sentait très mal au niveau des seins. Nous venons d'être consultés. Le médecin nous a clarifié et nous a donné une ordonnance médicale. Maintenant, nous sommes fiers d'être éclairés par le médecin là.
Le médecin gynécologue obstétricien confirme la souffrance de ces personnes qui méritent une prise en charge médicale adéquate. Docteur Mbungu Mulaila.
C'est vrai qu'elles viennent et nous nous rendons compte qu'il y a vraiment le problème dans la communauté parce que nous n'avons pas encore fini l'échéance donnée. Nous n'avons pas encore dire si elles seront nombreuses par rapport à l'attendu ou pas. Elles ont sérieusement des problèmes parce que nous diagnostiquons différentes pathologies depuis que nous avons commencé, celles qui nécessitent un traitement médical et les autres qui nécessitent même des traitements chirurgicaux.
Signalons que les examens des laboratoires et les médicaments sont à la charge de malades, mais à des prix promotionnels. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. Projet de développement de 145 territoires de la RDC, des notables de Mwenga dénoncent des erreurs matérielles dans le budget global. Sur les 10 millions destinés à ces territoires du Sud Kivu, 2 millions sont attribués à la chefferie de Buloho, faisant pourtant partie de Kalei. En outre, la chefferie de Minembwe est insérée dans le budget de Mwenga alors qu'elle est à Fizi, explique Espérance Mwamikazi, chef de la délégation des notables de Mwenga, qui a exposé ce problème auprès du président du Sénat, Modeste Batilukwebo. Espérance Mwamikazi explique d'autres erreurs matérielles constatées au micro de Michel Kifindangoy.
Ce sont des erreurs qu'on a voulu que ça soit corrigé pour que le projet soit bien implémenté. Et en plus de cela, il y avait des déséquilibres par rapport à l'équité, par rapport au partage du montant de 10 millions. Et il y a des territoires qui ont reçu moins, 6%, des chefferies qui ont reçu 6%, des chefferies qui ont reçu plus de 40%, de 50% et les autres 10%. Et donc ces déséquilibres de partage dans les territoires nous a poussé de venir dire au président de nous accompagner à faire corriger les erreurs matérielles. Notre territoire a 5 chefferies et un secteur. Et donc chaque chefferie a ses priorités par rapport au plan local de développement. Et le président a dit que c'est vraiment une bonne démarche et qu'il va les accompagner. Et c'est important que ça soit corrigé. Chaque chefferie devrait bénéficier de ce projet équitablement.
Actualité internationale.
Le gouvernement libyen désigné par le Parlement, soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar, a annoncé ce mardi qu'il se retirait de la capitale Tripoli, siège du pouvoir exécutif rival, après plusieurs heures de combats déclenchés par son arrivée. Et puis le plus grand bloc parlementaire du Liban, mené par le puissant mouvement armé du Hezbollah pro-iranien, a perdu sa majorité au Parlement selon les résultats définitifs des élections législatives annoncées ce mardi 17 mai par le ministre de l'Intérieur. Le mouvement chiite et ses alliés politiques qui avaient le soutien d'environ 70 des 128 députés du Parlement sortant n'ont pas obtenu les 65 sièges nécessaires pour conserver une majorité après les élections législatives du 15 mai dernier.
L'invité.
Ce mardi, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle, une journée décrétée depuis 2005 par la Ligue mondiale contre l'hypertension. Elle a pour but de donner l'information sur la prévention, la détection et le traitement de cette maladie. Nous recevons dans cette édition le docteur Ananias Giamungu, résident en médecine interne à l'hôpital Île Africa de Goma, pour en parler. Il s'entretient ici avec Rosalie Zawadi. Suivez.
Docteur Ananias Giamungu, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'est l'hypertension artérielle?
Alors, l'hypertension artérielle, c'est une maladie, si on peut comprendre ça comme ça, mais c'est beaucoup plus un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Ça vous expose à développer maintenant une maladie permanente. Et quand on te dit que c'est facteur de risque, parce qu'on peut l'éviter, on peut le prévenir et on peut aussi le stabiliser.
Et quelles sont les causes de l'hypertension artérielle?
On peut d'abord essayer un peu de les classifier. Il y a ce qu'on appelle l'hypertension dite essentielle, où il n'y a pas vraiment des causes évidentes. Et cela, c'est dans 90%. Où vous retrouvez seulement, vous êtes hypertendu, mais quand on essaie un peu de chercher les causes, on voit seulement des facteurs qui vous ont prédisposé à développer cette hypertension artérielle. Cela, c'est dans 90-95%. Ce n'est que dans 5 ou 10% qu'on peut identifier exactement les causes. Ça peut être soit rénale, ça peut être soit endocrinienne, ça peut être soit les médicaments, ça peut être beaucoup de choses. Et pour les hypertensions secondaires, on peut soigner la cause et on a beaucoup plus de chances de guérir définitivement de l'hypertension artérielle. Mais pour l'hypertension artérielle qui est essentielle, d'ailleurs qu'on appelle un tueur silencieux, c'est chronique et on doit vivre avec.
Quels sont les signes quand vous dites c'est un tueur silencieux, mais il y a des signes qui vous alertent que vous l'avez?
Les signes ne sont pas spécifiques. Le malade peut présenter juste les signes généraux. Ça peut soit se laisser faller, se prendre des maux de tête, il est un peu essoufflé. Il va à l'hôpital et au décours d'un examen, le problème de la pression artérielle ou de la tension artérielle, le médecin va remarquer que quand même les chiffres sont un peu élevés et il peut essayer un peu de corréler la symptomatologie aux chiffres tensionnels. Mais tout comme aussi, les malades peuvent venir à l'hôpital au décours même des complications. C'est-à-dire, il vient dans un tableau d'AVC, il peut venir dans un tableau de rétinopathie, c'est-à-dire, il n'arrive pas à voir très bien. Et c'est quand on fait les prélèvements de la pression artérielle qu'on remarque que les chiffres sont élevés. Et on voit effectivement une corrélation qui est ici, si par exemple, cet AVC ici, c'est parce qu'effectivement, ces chiffres sont élevés. Pour commencer, on peut faire aussi la découverte de cette hypertension artérielle dans le cadre des bilans de routine. Donc, il vient dans le cadre d'un bilan d'embauche. Et c'est là qu'on remarque justement qu'il est hypertendu.
Une personne qui découvre qu'il a l'hypertension artérielle, comment peut-elle vivre avec?
C'est une maladie chronique. Je dis bien sauf pour les hypertensions secondaires où on peut arriver à faire un traitement étiologique, c'est-à-dire où on identifie la cause et on soigne la cause et on a là beaucoup plus de chances de guérir de l'hypertension. Mais pour les restes, dans 90% des cas, c'est chronique. Et les malades doivent suivre un traitement qui commence bien sûr par la modification de l'hygiène de vie. Il doit faire sport, il doit consommer beaucoup plus de fruits, de légumes, il doit diminuer le sel. Mais lorsque les médecins décident de lui soumettre à un traitement en fonction de telle ou telle autre évidence thérapeutique, il doit suivre ce traitement à vie. Il doit faire des contrôles réguliers et suivre les recommandations de son médecin. Mais il ne doit en aucun cas arrêter le traitement.
Et pour les personnes qui n'ont pas encore cette hypertension artérielle, comment la prévenir?
Il y a des facteurs modifiables et non modifiables. Alors pour les non modifiables, nous avons par exemple la génétique. Si vous venez d'une famille des hypertendus, tu ne vas rien faire, c'est-à-dire vous êtes exposé. Et on sait que les hommes sont beaucoup plus exposés à développer l'hypertension que les femmes, bien sûr, à un certain âge. Donc tu ne peux rien y faire. Donc ça, ce sont les facteurs non modifiables. Mais par exemple, les facteurs modifiables, nous avons par exemple le stress. On peut jouer sur le stress, bien sûr. Vivre sans stress, c'est presque utopique dans notre vie actuelle, mais on peut essayer de vivre tout en essayant de contrôler. La dyslipidémie, la malbouffe en fait. On doit bien manger, on doit contrôler tout ce qu'on mange. Il y a les tabacs, il y a les médicaments qu'on prend, par exemple pour les femmes, les estrogènes, les pilules contraceptives. Donc il y a les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables par rapport à ça.
Quel conseil simple vous avez à donner à toute la population?
Alors les conseils simples, c'est que c'est une réalité. C'est une réalité, ce n'est pas non plus une intoxication, Jean K.O. aller toujours à l'hôpital ou faire dépister. C'est là, c'est à partir des 18 ans. Donc on a tendance à croire que non, je vais commencer à prélever ma tension artérielle à partir des 40 ou des 50. Mais on peut faire aussi une hypertension secondaire chez les jeunes, ça peut arriver. Donc à partir des 18 ans, ayez toujours l'habitude de vous faire dépister. Et une fois le diagnostic est posé, il faut vous soumettre aux recommandations de votre médecin.
Docteur Ananias Djouamungu, je rappelle que vous êtes résident en médecine interne à l'hôpital de l'Africa de Goma. Merci.
Je vous en prie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.